Tout d'abord, les parents d'enfants lourdement handicapés crient à l'injustice. Ils dénoncent l'attitude du gouvernement qui semble prioriser les familles d'accueil plutôt que le maintien en milieu familial. La preuve, ben, les familles naturelles qui choisissent de s'occuper elles-mêmes de leurs enfants handicapés reçoivent en moyenne 25 600 $ d'aide monétaire par le gouvernement à chaque année. Pendant ce temps-là, ben, les familles d'accueil reçoivent, elles, 44 264 $ pour des enfants placé, entre guillemets. C'est 70 % de plus qu'une famille naturelle. Est-ce que c'est normal? Geneviève Dion est cofondatrice de Parents jusqu'au bout. Elle est la mère de la petite Naomi, qui a 6 ans et qui est lourdement handicapée. Bonjour, Mme Dion.
Oui, bonjour.
Alors, vous dénoncez cette situation-là qui paraît complètement aberrante. Comment se fait-il que les familles d'accueil reçoivent plus d'argent que si vous choisissez de vous occuper de votre enfant vous-même chez vous?
En fait, on n'a pas de réponse précise pour ça. C'est pour cette raison-là qu'on revient à la charge aujourd'hui et qu'on repart nos démarches.
Vous avez fait faire une analyse par une firme comptable pour savoir justement quelle était la situation économique, n'est-ce pas?
Absolument. Raymond Chabot, Grant Thornton, a fait une étude très solide et puis ils en sont venus à ce constat-là. Très honnêtement, nous n'étions pas très surprises du résultat parce qu'avoir un enfant lourdement handicapé nous engendre énormément de dépenses supplémentaires. Alors, comparativement aux familles d'accueil qui, eux, reçoivent en plus de leur salaire, si je peux dire, ils se font rembourser les médicaments, les ambulances, le gardiennage spécialisé, entre autres. Là.
Donc, en plus du 44 264 $ qu'ils reçoivent, là, qui est 70 % de plus que ce que vous recevez, eux, ils sont dédommagés pour d'autres types de dépenses, comme les médicaments, ce que vous venez de mentionner, c'est ça?
Entre autres.
Bon. Parlez-nous de votre
cas. C'est un chiffre moyen.
Hein? Oui, bien sûr, parce que, bon, ça doit, j'imagine, être différent d'un enfant à l'autre. Ce n'est pas tous les enfants qui nécessitent nécessairement les mêmes besoins, j'ai l'impression, là, mais vous avez fait une moyenne, finalement, qui est assez éloquente. Parlez-nous de votre cas. Vous avez une fille, une petite fille, Naomi, qui a 6 ans, qui est atteinte de trisomie partielle 14. Elle est également de monosynomie partielle 9. Je ne sais pas ce que c'est, là. Qu'est-ce que c'est, au juste?
Ça, c'est un beau mélange entre deux chromosomes, en gros, là. ce que ça fait, c'est que Naomi, ben, elle est lourdement handicapée. Dans le fond, c'est comme un petit bébé, mais rendu à 6 ans. C'est-à-dire qu'elle mange des purées, elle a du lait aux 4 heures. Ouais. Qui est donnée à l'aide d'une sonde directement dans son estomac. Mm-hmm. Elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle est suivie par une dizaine de spécialistes à Sainte-Justine. Donc, c'est un cas très, très lourd, autant humainement que financièrement, parce qu'avoir un enfant tel que Naomi ou les autres enfants là, qui sont semblables à elle, ça, c'est des dépenses encourues d'environ 55 000 $ par année pour nous.
Ah oui,
Et puis, ça engendre aussi des pertes financières considérables parce que souvent, les parents doivent arrêter de travailler en plus, vous comprenez? Mm-hmm. Alors, ça nous plonge dans une situation d'appauvrissement considérable.
Parce que vous avez choisi de rester à la maison, de vous occuper de votre fille, c'est ça?
Moi, dans mon cas, personnellement, Naomi va dans une école très spécialisée.
Ouais.
Donc, j'ai pu retourner sur le marché du travail. Mais il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas faire ceci.
Ouais.
Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas à mon nom, à moi personnellement, c'est au nom de 36 000 familles d'enfants handicapés québécois. Parce que ce qu'on demande essentiellement, c'est un double enjeu. Premièrement, on veut atteindre l'équité financière entre les familles naturelles et les familles d'accueil, ce qui n'est pas le cas présentement, visiblement, avec un écart d'environ 18 000 $ par année, un écart moyen. Et deuxièmement, introduire une modulation du supplément d'enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels, le SENS, en fait, là, qui a été mis sur pied par le gouvernement en 2016. Ce qui arrive avec le SENS, justement, c'est que c'est plus de 50 % des cas qui sont refusés, imaginez-vous. Puis ça, c'est un programme qui ne fonctionne pas bien, finalement. Alors, il y a 36 000 enfants qui ont droit à rien.
Vous voulez dire qu'ils n'ont aucune aide du tout?
Ils ont un supplément de 180 $ par mois.
Ouais.
Mais ce supplément-là devrait être modulé tel que c'est appliqué pour les familles d'accueil présentement. Comme ça, au moins, il y aurait une équité pour ces enfants-là. Parce que là, c'est une minorité des enfants qui sont admis. Et puis, les autres, ils se font répondre que leurs enfants sont pas assez handicapés. C'est-tu pas assez épouvantable, ça?
Ben oui, c'est assez effrayant, effectivement. Oui. Donc, vous avez fait des représentations auprès du ministre Fortin, entre autres. Et quelle a été la réponse? Est-ce qu'ils se sont montrés favorables à vos demandes? Est-ce qu'ils ont été au moins sympathiques?
Oui, tout à fait. On a eu une bonne rencontre avec le ministre Fortin.
Oui.
Il a été à notre écoute, une bonne écoute. Oui, on peut dire ça. Et puis, on va souhaiter pouvoir continuer de discuter avec lui et son équipe.
Mais il n'y a pas eu, il y a eu une bonne écoute, mais il n'y a pas eu de réponse, par contre. Il n'est pas arrivé avec.
Ouais. On aimerait beaucoup qu'il s'engage à faire quelque chose, à faire avancer ce dossier-là pour qu'on atteigne l'équité et d'introduire une modulation du supplément, justement.
Ouais.
Alors là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quelque chose parce qu'on veut aider 36 000 enfants handicapés québécois.
Mm-hmm. Et là, il faut bien comprendre que vous faites pas c'est pas une charge contre les familles qui accueillent les enfants ou les familles qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des familles d'accueil parce qu'elles considèrent qu'elles sont pas capables de s'en occuper elles-mêmes. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment...
Mais non, aucunement.
Exactement. Alors, est-ce que un enfant, par exemple, ou une famille qui choisit de garder l'enfant à la maison, il doit avoir des bénéfices aussi, là, le fait de garder l'enfant au sein de la famille, est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'enfant handicapé, pour sa croissance?
Absolument, absolument. De garder l'enfant dans son noyau familial, c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde.
Oui.
Tout à fait, parce que l'enfant évolue beaucoup mieux dans son environnement familial avec ses parents qui l'aiment, sa fratrie également. C'est sûr qu'il n'y a pas du tout le même contact, là.
Ça fait combien de temps, Mme Dion, que vous demandez justement d'ajuster ces montants d'argent-là?
Bien, en fait, c'est que en 2016, quand le gouvernement a finalement instauré ce programme-là, ouais. Le SENS, on leur a dit que c'était injuste pour les autres, qu'il fallait qu'il y ait divers paliers. Mais là, ils nous ont répondu à ce moment-là, là, on gère une urgence. Vous nous avez dit, mesdames, que c'était urgent, on répond aux besoins présents. Alors, on a dit d'accord, on comprend, mais on savait très bien que c'était injuste pour les autres, c'était une grande inéquité.
Donc là, vous dites, OK, c'est beau, là, on a géré l'urgence, maintenant, peux-tu agir et arriver avec un programme qui soit mieux fait, mieux construit et plus équitable pour tout le monde?
Tout à fait, parce que là, pour l'instant, là, ce qui se passe, c'est que pour toutes les dizaines de milliers d'autres familles qui n'ont rien, bien, eux, sont plongés dans la pauvreté. Ouais. Alors, là, plus le temps passe, pire la situation est.
OK, bien, merci beaucoup, Mme Dion. On espère que ça va débloquer et que la démonstration que vous faites avec, justement, l'étude que vous avez fait faire par la firme comptable va, justement, amener le gouvernement à bouger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir et je veux juste ajouter
quelque
chose, si vous me permettez. On voudrait l'appui du public. Donc, on invite les gens à aller appuyer notre campagne sur le site Facebook de Parents jusqu'au bout. Nous avons mis le lien pour cette campagne-là. Alors, on invite les gens à aller signer et à la partager dans leur réseau.
Bien, bien sûr, on a invité les gens à le faire. Donc, sur Facebook, c'est pas très compliqué, là.
Facebook,
Parents jusqu'au bout.
Sur Twitter aussi. Oui,
bon,
exactement.
C'est facile à trouver. Merci, Mme Dion.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Au revoir. On va aller joindre maintenant François Paradis, qui est député de Lévis. Il est porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de santé et de services sociaux. Bonjour, M. Paradis.
M. Lacroix, grand salut. Content de vous parler.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Encore une fois, c'est une démonstration qu'il y a une iniquité flagrante à l'égard de ces familles-là.
Elle est là, elle existe. M. Lacroix, on existe. En fait, j'écoutais Mme Dion qui dit le programme. Parlons, il y a plusieurs phases, là, mais notamment de l'aide pour enfants demandant des soins exceptionnels. Mise en place par le gouvernement, ben, ça fait deux ans, moi, que je questionne le ministre sur la problématique qu'on a avec ce programme-là, parce qu'elle vous l'a bien dit, puis on a fait, bizarrement, une demande d'accès à l'information le 17 mai dernier pour avoir les derniers chiffres de gens qui ont été acceptés sur ce fameux programme-là, parce que ça arrive à mon bureau, à des familles qui sont complètement démunies en disant, écoutez, mon enfant ne mange pas seul, parle pas, se déplace pas, est incontinent, qu'on me refuse à ce supplément-là. Ben, les derniers chiffres que j'ai, moi, c'est que moins d'une personne sur deux sont acceptées sur le programme. C'est-à-dire que la moitié des familles font dire non parce que le programme est rigide. Déjà, en ce sens-là, on demandait une flexibilité, de faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose qui est différent. Tu sais, la notion d'handicap absolu, là, va falloir demander qu'on la module parce qu'il y a des gens qui, devant moi, en tout cas, partent en sanglots parce qu'ils disent « j'y arrive plus, je suis rendu malade, on est plus que sous le seuil de la pauvreté, on ne sait pas quoi faire et pourtant on veut aider nos enfants, les aimer puis les garder à la maison plutôt que les placer alors que vous avez l'autre problème, des familles d'accueil qui, elles, font un sacré bon travail, mais reçoivent davantage en aide financière que la famille d'origine. » Ça fait pas sens.
Bon,
ça ne fait pas sens.
Pour faire suite à ce que disait Mme Dion tout à l'heure quand elle parlait des enfants qui n'ont pas accès au programme, bon, elle nous disait que 50% des familles qui ont soumis une demande, ont été refusées. Le gouvernement jugeait qu'ils n'étaient pas suffisamment handicapés. Il y a 1634 enfants sur 36 000 qui ont reçu, qui ont accès au programme. Et là, selon l'étude de Raymond Chabot de Grant Thornton, si les enfants devaient être pris en charge par le milieu hospitalier, l'État devrait débourser 81 373 $ par année par enfant. C'est 150% de plus que si on le maintient en famille. C'est assez incroyable quand même.
Vous avez tout à fait raison. Puis là, vous posiez la question avec beaucoup de justesse. Est-ce que pour l'enfant, c'est un plus de rester dans sa famille d'origine? Bien sûr, tout le monde vous le dira, d'autant plus que des parents viennent nous voir qui, eux, sont obligés de placer leur enfant en famille d'accueil parce qu'ils ont peu les moyens d'assumer le suivi, parce que pour d'autres, ils n'ont pas le choix, parce que c'est pas facile. Hein. Mettez-vous dans la peau de parents, s'occuper d'un enfant lourdement handicapé, c'est du 24 heures sur 24, ben 3 jours par semaine. Alors, il y a des parents qui sont manifestement pas capables. Et c'est correct qu'on a un système comme les familles d'accueil pour faire en sorte qu'on puisse s'occuper des enfants, mais pour ceux qui veulent le faire, c'est évident que comme société, on économise à amener un équilibre, à apporter un soutien financier plus élevé à ces familles d'origine qui veulent continuer à survivre parce que la maman ou le papa qui laisse son travail, qui tombe en burn-out, qui n'arrive plus, socialement, là, on n'est pas gagnant nulle part, là, ni pour le jeune qui doit être suivi, ni pour la famille qui souhaite s'en occuper. Alors ça, on le dit depuis 2 ans, puis j'oserais ajouter sans augmenter la dimension de la problématique. Mais l'autre dossier parallèle dont j'ai encore parlé tout récemment, ce sont des parents qui maintenant se retrouvent avec des enfants lourdement handicapés qui sont d'âge adulte maintenant et qui n'arrivent pas plus. Alors, on a une autre problématique à ce chapitre-là. Et dans les deux cas, si on faisait en sorte d'avoir un programme plus souple, plus flexible, au prorata du handicap présenté, un soutien qui fait en sorte qu'on n'ait pas de différence entre l'un et l'autre, ce qu'on se dit là, c'est assez effrayant. Là. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un. M. Lacroix, vous avez un enfant ou j'ai un enfant lourdement handicapé, qu'on se dit comme parent aimant, si on le place à trois rues de chez nous dans une famille d'accueil, ils vont avoir un soutien supplémentaire que je souhaiterais donner à mon enfant, mais je ne l'ai pas. Puis si je le donne, ben je m'écrase, puis je vais vivre mon burn-out puis ma dépression. Puis c'est pas de l'utopie, là. Les gens me racontent leur histoire, puis c'est la réalité. Alors vivement qu'on agisse. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Puis ce qu'on fait, ben c'est, oui, on a des belles rencontres, puis oui, on dit on est empathique à ça. J'en ai forcé, moi, une rencontre avec la ministre Charlebois, le ministre de la Santé, des parents d'enfants lourdement handicapés. C'est sûr qu'on a dit, oui, là, on comprend le phénomène. La ministre Charlebois a parlé pendant 1 an avec des parents d'enfants lourdement handicapés d'âge adulte pendant 1 an pour se faire dire au bout de l'année, ben finalement, c'est pas la bonne place, il faudrait commencer à discuter ailleurs.
Exactement.
Alors, on va voir mais qu'on règle le problème.
Bon, là, exactement. Là, il y avait une réponse d'urgence qu'on avait faite avec le programme sens, mais là, il est peut-être temps justement qu'on arrive avec une politique qui soit plus équitable, qui soit mieux établie.
La réponse d'urgence, habituellement, c'est pour régler le problème. Vous venez de le dire, comme moi, les chiffres le prouvent, dernier rapport, moins de la moitié des gens qui soumettent leur cas à un programme de soins exceptionnels sont refusés. C'est l'urgence. On l'a traité en surface. Le bobo, il n'est pas guéri. Là.
Exactement. Merci beaucoup, François Paradis.
Grand plaisir.
Au revoir. François Paradis, député de Lévis, les porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière de santé. C'est un dossier qu'il a suivi depuis un bout de temps. Écoutez, si vous voulez aller donner un coup de main à parents jusqu'au bout, vous allez sur la page Facebook et puis vous allez signer justement le document qu'ils ont placé là pour appuyer cette demande-là. Je dois vous dire qu'on a demandé au ministre André Fortin d'être avec nous pour Luc Fortin, excusez-moi, André, c'est celui au transport. Luc Fortin est plus à la famille. Au député Fortin, donc, d'être avec nous aujourd'hui pour donner sa réponse. Il a été sympathique à la cause qui est, en fait, amenée de l'avant par parents jusqu'au bout. Par contre, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de réponse en tant que telle. Alors, c'est ça qu'on voulait lui poser comme question aujourd'hui. Alors, espérons qu'il entendra l'appel lancé par cet organisme. On s'arrête.